I put a spell on you.
Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique préférée. Aujourd'hui, votre animatrice Anaïs Saintas est aphone, donc je vais présenter l'émission à sa place. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Ça va quand même?
Bah ça va, mais je peux pas trop parler.
Oh. Bon, j'espère que je vais être à la hauteur. Aujourd'hui, on va continuer le cycle de lecture des pièces de Bertolt Brecht. À la fin de l'émission, on va faire la connaissance d'un nouveau chroniqueur, Combor, qui va venir à partir de cette semaine, toutes les semaines, lire ses textes. Et voilà, aujourd'hui, on va donc vous lire Les fusils de la mer Carrare de Bertolt Brecht. Donc, pour cela, autour de la table, il y a Aurélien Serre, pardon, je suis pas du tout galant, les filles. Je commence par les filles. Il y a Maud Fumet, qui va jouer le rôle de la mère Carrare. Bonjour Maud.
Bonjour.
Il y a Anaïs Saintas qui va faire quelques petits rôles, donc.
Ouais, je vais essayer en tout cas.
Voilà, ça va apporter de l'âme au personnage. Nous avons Virginie Loyer, qui va jouer la jeune fille.
Bonjour,
bonjour Virginie. Et Julie Quenst, la vieille Madame Pérez, la voisine d'en face.
Bonjour.
Bonjour Julie. Et Aurélien Serre, donc, qui va jouer le frère.
Bonjour.
Le frère de Madame Carrare. Bonjour. Et donc, moi, je suis Florent Fichot. Et je vais jouer le jeune homme, le fils de Madame Carrare. Je vous présente vite fait la pièce. Donc, c'est une pièce donc écrite par Bertolt Brecht en 1937. Et c'est une réponse de Brecht à l'inertie des démocraties occidentales face à la répression de la révolution espagnole de 1936. Je résume un peu. La guerre civile fait rage en Espagne après l'insurrection dès octobre 34 des socialistes des Asturies, une communauté autonome d'Espagne. La capitale Oviedo est prise par les insurgés et réprimée par le général Franco, donc il y a eu plus de 3000 morts, 30 000 emprisonnés et torturés, 7 000 blessés. Le père dont parle Brecht dans cette pièce est mort suite à ses blessures dans la bataille d'Oviedo. Donc l'action de la pièce se situe dans la guerre civile qui oppose les nationalistes aux républicains et dont l'issue en 39 est l'établissement de la dictature de Franco jusqu'en 75. Le temps de la cuisson du pain, Teresa Carrare, donc la mère Carrare, qui est veuve, s'oppose au départ pour le front de ses deux jeunes fils. Le frère de Teresa essaie de la convaincre de remettre aux résistants les fusils qu'elle a conservés, mais elle refuse pour ne pas mettre en danger ses fils. Mais l'issue dramatique de la pièce va la faire changer d'avis. C'est parti.
Une nuit d'avril 1937, dans une maison de pêcheurs andalouse.
Dans un coin de la pièce, blanchi à la chaux, un grand crucifix noir. Une femme de pêcheur de 40 ans, Teresa Carrar, en train de cuire le pain. Près de la fenêtre ouverte, son fils, Roré, 15 ans, taille une navette. Au loin, la canonnade.
Vois-tu toujours la barque de Juan ?
Oui.
Sa lampe brûle toujours ?
Oui.
Aucune autre barque n'est venue le rejoindre ?
Non.
Ça m'étonne. Pourquoi n'y a-t-il personne d'autre en mer ?
Tu le sais bien.
Si je le demande, c'est que je ne le sais pas.
À part Juan, il n'y a personne en mer parce qu'ils sont actuellement... Parce qu'ils ont actuellement autre chose à faire que pêcher du poisson.
Bon.
Et Juan lui-même ne serait pas en mer si ça ne dépendait que de lui.
Exact. Ça ne dépend pas de lui.
Taillant plus nerveusement.
Non.
La mère enfourre la patte, s'essuie les mains et entreprend de réparer un filet de pêcheur.
J'ai faim.
Mais tu n'es pas d'accord que ton frère pêche du poisson.
Parce que ça, moi, je peux le faire et Juan, sa place est au front.
Je croyais que tu voulais y aller toi aussi.
Les bateaux de vivres forceront-ils le blocus anglais ?
En tout cas, quand ce pain sera cuit, je n'aurai plus de farine.
Le jeune homme ferme la fenêtre.
Pourquoi fermes-tu la fenêtre ?
Il est 9h.
Alors ?
À 9h, ce chien parle encore à la radio et les Pérez allument leur poste.
Je t'en prie, rouvre tout de suite. Quand on a de la lumière ici et que la fenêtre a des reflets, tu ne peux pas voir distinctement.
Pourquoi dois-je rester assis ici à surveiller ? Il ne va pas t'échapper d'ailleurs. Tu n'as qu'une peur, c'est qu'il parte au front.
Ne sois pas insolent. C'est bien assez triste que je sois obligée de vous surveiller.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous ?
Tu ne vaux pas mieux que ton frère, pas du tout, plutôt moins.
C'est uniquement pour nous qu'ils allument leur radio. Ça fait déjà 3 soirs. Hier, je les ai vus ouvrir la fenêtre exprès pour nous obliger à l'entendre.
Ces discours ne seront pas différents de ceux qu'ils tiennent à Valence.
Dis tout de suite qu'ils sont mieux.
Tu sais bien que je ne les trouve pas mieux. Pourquoi serais-je pour les généraux ? Je suis contre toute effusion de sang.
Qui a commencé ? Nous, peut-être ?
La mère garde le silence. Le jeune homme a rouvert la fenêtre. Au loin, on entend une annonce à la radio.
Attention, attention.
Son Excellence le Général Cuiepo del Llano vous parle. Ensuite, parvient la voix haute et perçante dans la nuit du général de la radio qui tient son discours du soir au peuple espagnol.
Aujourd'hui ou demain, mes amis, il nous faudra vous parler sérieusement. Et c'est de Madrid que nous parlerons ainsi. Encore que peut-être ce qui se dressera à leur retour de nous ne ressemblera plus à Madrid. Et monsieur l'archevêque de Canterbury aura raison de verser ses larmes de crocodile. Nos braves morts auront des comptes à régler.
Salaud.
Mes amis, le prétendu empire britannique, ce colosse au pied d'argile, ne nous empêchera pas d'anéantir la capitale d'un peuple pervers qui ose tenir tête à l'irrésistible cause nationale. Nous balayerons cette racaille de la surface de la terre.
C'est-à-dire nous, mère.
Nous ne sommes pas des rebelles et nous ne tenons tête à personne. Vous feriez peut-être une chose comme ça si ça ne dépendait que de vous. Toi et ton frère, vous êtes téméraires par nature. Vous tenez ça de votre père et peut-être que je n'aimerais pas que vous soyez différents, mais ce qui se passe actuellement n'est pas une plaisanterie. Tu n'entends pas leurs canons ? Nous sommes des pauvres et les pauvres ne peuvent pas faire la guerre.
On frappe. Entre l'ouvrier Pedro Yaqueras, frère de Teresa Carrar. On voit qu'il a une longue route derrière lui. Bonsoir.
Oncle Pedro.
Qu'est-ce qui t'amène ici, Pedro ?
Elle lui tend la main.
Tu viens de Motril, oncle Pedro ? Comment ça se passe là-bas ?
Non, pas trop bien. Et pour vous ? Comment ça va ?
Ça va.
Tu es parti de là-bas aujourd'hui ?
Oui.
Ça fait 4 bonnes heures, n'est-ce pas ?
Plus, parce que les routes sont tout encombrées de réfugiés qui veulent aller à Almeria.
Mais Motril tient ?
Je ne sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui. La nuit dernière, nous tenions encore.
Pourquoi donc es-tu parti ?
Nous avons besoin de tas de choses pour le front. J'ai pensé que j'allais revenir voir ce que vous deveniez.
Veux-tu un verre de vin ?
Elle va chercher le vin.
Le pain ne sera cuit que dans une demi-heure.
Où est donc Juan ?
À la pêche.
C'est vrai ?
Tu peux voir sa lampe de la fenêtre.
Il nous faut vivre.
C'est sûr. En descendant la rue, j'ai entendu le général de la radio. Qui l'écoute ici, celui-là?
Les Pérez, en face.
Ils allument donc toujours quand il y a des choses comme ça?
Non. Ce ne sont pas des franquistes, ce n'est pas pour eux qu'ils le font, si c'est ça que tu veux dire.
Ah bon?
Tu regardes toujours où est ton frère?
Le jeune homme retourne à contre-cœur à la fenêtre.
Sois tranquille, n'est pas tombé à l'eau, ton fils.
L'ouvrier prend le cruchon de vin et va s'asseoir près de sa sœur, qui l'aide à réparer le filet. Juan, il a quel âge au juste?
21 en septembre.
Et Jorge?
Tu comptes faire quelque chose de spécial dans le coin?
Rien de spécial.
Il y a longtemps que tu n'étais pas venu ici.
2 ans.
Comment va Rosa?
Rhumatisme.
Je pensais que vous alliez venir voir ce que nous devenions.
Peut-être que Rosa a été un peu contrariée à cause de l'enterrement de Carlo. Elle était d'avis que vous auriez pu nous le faire savoir. Naturellement, nous serions venus à l'enterrement de ton mari, Teresa.
Ça s'est passé trop vite.
Qu'est-ce qu'il y a eu?
Une balle dans le poumon.
Comment ça?
Qu'est-ce que ça veut dire, comment ça?
Mais ici, il y a 2 ans, tout était pourtant calme.
Mais à Oviedo, il y a eu le soulèvement.
Mais comment Carlo s'est-il retrouvé à Oviedo?
Il y est allé.
D'ici?
Oui, quand il a été question dans les journaux du soulèvement.
Comme d'autres vont en Amérique pour tout miser sur une carte, comme font les fous.
Tu veux dire que c'était un fou?
Gardant le silence, les mains tremblantes, la mère met de côté le filet et sort. Ça a été très mauvais pour elle, hein?
Oui.
Ça lui a fait un choc de ne plus le voir.
Elle l'a revu, il est revenu. Mais c'est ça qui a été le pire de tout. Il semble que là-haut, dans les Asturiers, il soit monté dans un train, on ne sait pas comment, avec un pansement de fortune sur la poitrine, sous la blouse, et qu'il soit parti pour rentrer ici. Il a dû changer 2 fois, et il est mort ici, à la gare. Et ici, tout à coup, le soir, la porte s'est ouverte, et les voisins sont entrés comme quand elles en ramènent un qui s'est noyé. Elles se sont rangées contre le mur, sans un mot. Et elles ont débité l'Ave Maria, puis on l'a apportée sur une bâche et on l'a posée sur le sol. Et c'est à partir de là qu'elle est allée à l'église. Et à l'institutrice, dont on savait que c'était une rouge, elle a montré la porte.
Elle est vraiment pieuse à présent?
Juan est d'avis que c'est surtout parce que les gens du voisinage disaient des choses sur elle.
Et qu'est-ce qu'ils disaient sur elle?
Que c'était elle qui lui aurait donné le conseil.
Et l'a-t-elle fait? Le jeune homme hausse les épaules. La mère revient, regarde où en est le pain et reprend son filet. La mère a l'ouvrier qui veut de nouveau l'aider.
Laisse donc. Bois plutôt ton vin et repose-toi, si tu t'es levé de bonne heure.
L'ouvrier prend le cruchon et retourne à la table.
Tu veux passer la nuit ici?
Non. Je n'ai pas assez de temps. Il faut que je rentre aujourd'hui même. Mais je vais me laver. Il sort. La mère faisant signe au jeune homme de s'approcher.
Il t'a dit pourquoi il est venu?
Non.
Vraiment pas?
L'ouvrier revient avec une cuvette et un essuie-main. Il se lave.
Les vieux Lopez sont toujours en vie?
Seulement lui. Il y en a beaucoup d'ici qui sont au front, hein?
Il y en a aussi qui sont encore là.
Chez nous, même de parfaits catholiques s'y trouvent déjà en grand nombre.
D'ici aussi, quelques-uns.
Donc, ils ont tous des fusils?
Non, pas tous.
Ça n'est pas bon. Actuellement, des fusils, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire. Avez-vous encore des fusils au village?
Non.
Il y a des gens qui en ont caché. Ils les enfouissent dans le sol comme des pommes de terre.
La mère regarde le jeune homme. Bon. Le jeune homme s'écarte de la fenêtre nonchalamment et se glisse vers le fond.
Où vas-tu?
Nulle part.
Retourne à la fenêtre.
Le jeune homme, entêté, reste à l'arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi t'éloignes-tu de la fenêtre? Réponds-moi.
Il y a quelqu'un dehors?
Non.
On entend du dehors des enfants piailler. Rosé, autrefois tu jouais aux cartes? Qu'est-ce que tu dirais d'une petite partie? La mère s'assoit à la fenêtre. Le jeune homme va chercher les cartes et il se met à jouer. Tu triches toujours?
Je le faisais dans le temps.
J'avais l'impression. En tout cas, je vais couper. Alors, tout est permis. À la guerre, tous les trucs sont bons, n'est-ce pas? La mère lève les yeux d'un air méfiant.
C'est un petit atout.
c'est chic de me dire ça. Oh, et voilà qu'il a l'as d'atout. Tu m'as bluffé. Mais est-ce que tu n'as pas été un peu cher? Tu as fait partir la grosse pièce et maintenant c'est le tour de mes bricoles. Je lui flanque une pile. Voilà ce qui arrive. L'audace est une bonne chose, mon fils. C'est vrai que tu es audacieux, mais pas encore prudent.
Quand on ne risque rien, on ne peut rien avoir.
Ces proverbes, ils les tiennent de leur père. Un homme bien prend des risques, n'est-ce pas?
Oui. Ce qu'il risque, c'est notre peau. Une fois, Don Miguel de Ferrante perdit 70 paysans d'un coup en jouant avec un colonel. Il fut ruiné, le pauvre, et il dut pour le restant de sa vie s'en tirer avec 12 domestiques. De fait, il joue le 10 sec.
Je devrais jouer comme ça.
Il ramasse sur un pli.
C'était ma seule chance.
Voilà comme ils sont. Son père sautait de la barque quand le filet s'entortillait.
Peut-être n'avait-il pas tellement de filets.
Il n'avait pas non plus tellement de vie.
Sur le seuil se tient un homme en uniforme de la milice, la tête bandée, le bras en écharpe.
Entre donc, Paolo.
Vous avez dit, Madame Carrard, que je pourrais revenir pour le pansement.
Il est de nouveau détrempé.
Elle sort en hâte. Où as-tu attrapé ça?
Montez, Solouvé.
La mère revient avec une chemise qu'elle déchire en bandes. Elle renouvelle le pansement. Mais ce faisant, elle ne quitte pas des yeux les deux hommes assis à la table.
Mais tu as encore travaillé?
Rien qu'avec le bras droit.
Mais t'a-t-on dit que tu ne le devais pas?
Oui, oui. On dit que cette nuit, le front va être enfoncé. Nous n'avons plus de réserve. C'est possible qu'il soit déjà percé?
Non. Non, 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 je ne le crois pas. La canonnade aurait alors forcément changé.
Oui, tu as raison, c'est juste.
Je te fais mal? Dis-le. Je ne suis pas infirmière de métier. Je fais aussi doucement que je peux.
Devant Madrid, ils ne passeront pas.
On ne sait pas ça.
Si, on le sait.
Bien. Oh, Madame Carrard, vous avez encore déchiré toute une chemise. Vous n'auriez pas dû.
Tu veux que je te noue un chiffon à poussière autour du cou?
Mais vous non plus, vous n'avez pas tellement de quoi.
Ça durera ce que ça durera. Bon, mais pour ton autre bras, il n'y en aurait plus assez.
Alors la prochaine fois, il faudra que je me tienne mieux sur mes gardes.
Il se lève et s'adresse à l'ouvrier.
Pourvu qu'il ne passe pas les chiens.
Il s'en va.
Cette canonnade.
Et nous, nous allons pêcher.
Soyez contents d'avoir encore vos quatre membres.
Au dehors, on entend, augmentant et décroissant, un bruit de camions et des chants. L'ouvrier et le jeune homme s'approchent de la fenêtre et regardent dehors. Ce sont les brigades internationales. On les jette maintenant dans la bataille sur le front de Mortil. Le refrain de la brigade Talman éclate. Lointaine est ma patrie. Oh, ce sont les Allemands. On entend quelques mesures de la Marseillaise. Forcément les Français, la Varsovienne. Ce sont les Polonais. Bandiera rossa. Les Italiens. Halt the fort. Les Américains. Los cuatro generales. Et ça, ce sont les nôtres. Les bruits de camions et des chants se perdent. L'ouvrier et le jeune homme reviennent à la table. Tout dépend de cette nuit. Il faudrait vraiment que je file. C'était la dernière, Auré.
Qui a gagné?
Lui.
Alors je ne te prépare pas un lit?
Non, je dois partir. Mais il reste assis.
Il faudra que tu salues Rosa. Et qu'elle ne me garde pas rancune. Surtout qu'aucun de nous ne sait ce qui va encore arriver.
Je t'accompagne un bout de chemin.
Ce n'est pas la peine. La mère, debout, regarde par la fenêtre.
Tu aurais sans doute aimé revoir Juan.
Oui, j'aurais aimé. Seulement, il ne va pas de rentrer de si tôt, n'est-ce pas?
Il est assez loin en mer. Il doit être presque à la hauteur du cap.
Tournez vers l'intérieur de la pièce.
Nous pourrions aller le chercher?
Seul, sur le seuil, apparaît une jeune fille.
Bonjour, Manuela.
À voix basse, à l'ouvrier.
C'est Manuela, l'amie de Juan.
À la jeune fille.
C'est oncle Pedro.
Où est Juan?
Juan travaille.
Nous pensions que vous l'aviez envoyé jouer à la balle, à la marelle.
Non, il est allé pêcher. Juan est un pêcheur.
Pourquoi n'est-il pas venu à la réunion à l'école? Il y avait aussi des pêcheurs.
Il n'avait rien à y faire.
C'était quoi comme réunion?
Il a été décidé que tous ceux qui peuvent se libérer doivent monter au front cette nuit même. Mais vous saviez bien de quoi il s'agissait, surtout que nous avions fait prévenir Juan.
Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, Juan ne serait jamais allé pêcher. Ou est-ce à toi qu'ils l'ont dit, mère ?
La mère garde le silence. Elle s'est comme fourrée dans le four à pain.
Elle ne lui a tout simplement pas fait la commission.
À la mère.
Et maintenant, je sais pourquoi tu l'as envoyé pêcher.
Il ne devrait pas faire des choses comme ça, Teresa.
Dieu a donné un métier aux hommes. Mon fils est pêcheur.
Vous voulez sans doute nous ridiculiser dans tout le village. Où que j'aille, on ne me montre du doigt. Le seul nom de Juan me rend malade. Quels gens êtes-vous donc ici ?
Nous sommes des gens pauvres.
Le gouvernement a invité tous les hommes valides à prendre les armes. Ne prétendez-vous pas que vous ne l'avez pas lu ?
Je l'ai lu. Gouvernement ou pas gouvernement, on veut nous jeter à la voirie. Mais ce n'est pas pour ça, en tout cas, que je conduirai de plein gré mes enfants à la voirie avec la brouette.
Non, vous attendez qu'on vienne les chercher pour les coller au mur. Je n'ai encore jamais vu pareille bêtise. C'est la faute des gens comme vous, si on en est arrivé là. Et si ce porc de Llano peut se permettre de nous parler comme il le fait.
Je ne permets pas qu'on emploie de telles expressions dans ma maison.
Voilà qu'elle est déjà pour les généraux.
Non, mais elle ne veut pas que nous combattions.
Restez neutre. Alors ?
Je sais que vous voulez faire de ma maison un repère de conjurés. Vous ne vous tiendrez tranquille que lorsque vous aurez vu Juan collé au mur.
Et on disait de vous que vous aviez aidé votre mari quand il est parti pour Oviedo.
Taisez-vous. Je n'ai pas aidé mon mari. Pas pour une chose comme ça. Je sais qu'on me met ça sur le dos, mais ce sont que des mensonges. Rien que de sales mensonges. Tout le monde peut en témoigner.
On n'appelle pas ça à mettre quelque chose sur le dos de quelqu'un, Madame Carrard. On ne l'a dit qu'avec le plus profond respect. Dans le village, nous savions tous que Carlo Carrard était un héros. Mais pour ça, il lui fallait sans doute se glisser la nuit hors de la maison. Ça, maintenant, nous le savons.
Non, mon père ne s'est pas glissé la nuit hors de la maison, Manuela.
Toi, José, tais-toi.
Dites à votre fils que je ne veux plus, tiens, avoir affaire avec lui. Il n'aura plus besoin de faire un détour pour m'éviter, de peur que je lui demande pourquoi il n'est toujours pas là où il devrait être.
Elle s'en va. Tu n'aurais pas dû laisser partir cette fille comme ça. Autrefois, tu ne l'aurais pas fait, Teresa.
Je suis comme j'ai toujours été. Sans doute ont-ils parié qu'il ferait partir Juan au front. D'ailleurs, je vais le chercher. Ou toi, José, va le chercher. Non, attends, je vais y aller moi-même. Mais je reviens tout de suite.
Elle sort. Dites donc, Jorge, tu n'es pas le plus sot. Et on n'a pas besoin de tout expliquer en long et en large. Alors, où sont-ils ?
Quoi ?
Les fusils.
Du père ?
Ils doivent pourtant être encore là. Quand il est parti, il n'a pas pu monter dans le train avec une chose pareille.
C'est ça que tu es venu chercher ?
Mais quoi d'autre ?
Elle ne les rendra jamais. Elle les a cachés.
Oh ! Le jeune homme montre un coin de la pièce. L'ouvrier se lève et s'apprête à y aller, lorsqu'on n'entend des pas. Il se rassoit rapidement. Plus un mot à présent.
Par toute la terre, chaque prolétaire a frémi d'un immense espoir. Ce d'Oviedo d'un splendide élan ont rejeté soudain leur carcan, ont pris le pouvoir. Ce d'Oviedo, la victoire entière par toute la terre ne viendra qu'après maints efforts. Ceux d'Oviedo ont lancé l'action. L'Espagne a touché du doigt l'essor des révolutions. À Oviedo, c'est d'Urga tranquille, de la mine hostile, armée d'explosifs de chantier. Sous leur barrette en bourgeron noir, ont pris d'assaut palais et manoirs, héros ouvriers, ceux d'Oviedo. À leur cigarette, allumons la mèche de leur grenade de fer blanc. Pendant des jours, ils ont repoussé les mercenaires contre eux lancés par les possédants. Sans sous ni maille, en pleine bataille, ont protégé les gens, les biens. Parmi l'horreur de la lutte à mort, ils préparaient un plus juste sort, les droits et le pain, ceux dont vient donc. Tremblante de haine, lâche et inhumaine, la réaction les écrasa. Toute une armée à coups de canon fit d'Oviedo un tombeau sans nom. Partout on trembla. L'âpre bourgeoisie, malgré ses tueries, n'aura nul repos désormais. L'Espagne entière a frémi d'horreur. Le jour approche où par sa fureur seront bien vengés.
Remettez les fusils à leur place. C'est pour ça que tu es venu.
Hey, nous en avons besoin, Teresa. Nous ne pouvons pas arrêter les généraux avec nos mains.
Si tu n'es venu que pour avoir les fusils, tu n'as pas besoin d'attendre plus longtemps. Et si vous ne nous laissez pas en paix dans cette maison, je prends mes enfants et je me sauve.
Teresa, as-tu regardé notre pays sur la carte? Nous vivons comme sur une assiette cassée. Là où est la cassure, c'est l'eau. Et au bord de l'assiette se tient l'artillerie, et sur nos têtes il y a les bombardiers. Où veux-tu aller si ce n'est au milieu des canons? Elle s'avance vers lui, lui prend les fusils des mains et les emporte dans ses bras.
Vous ne pouvez pas avoir les fusils, Pedro.
Tu dois les lui donner, mère, ici ils ne feront que s'abîmer.
Toi, ressais plus un mot. Qu'est-ce que tu sais donc, toi?
L'ouvrier s'est assis de nouveau tranquillement sur sa chaise et allume une cigarette. Teresa, tu n'as plus le droit de garder les fusils de Carlo.
Droit ou pas droit, je ne vous les donne pas. Vous ne pouvez pas prévenir et venir et éventrer mon plancher et emporter contre mon gré quelque chose de chez moi.
Ce n'est pas forcément quelque chose qui est à sa place dans une maison. Je ne veux pas te dire devant ton fils ce que je pense de toi, et nous n'allons pas non plus parler de ce que ton mari pensait de toi. Il a combattu, je suppose que tu as perdu la tête par peur pour tes garçons, mais naturellement, nous ne pouvons pas tenir compte de ça.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que je ne partirai pas sans les fusils, tu peux en être sûr.
Alors, il faudra que tu m'abattes.
Je ne le ferai pas, je ne suis pas le général Franco, je parlerai simplement à Juan, et je pense que je les aurai.
Juan ne reviendra pas.
Mais c'est toi qui l'as appelé.
Je ne l'ai pas appelé. Pedro, je ne veux pas qu'il te voie.
Je m'attendais à une chose comme ça. Mais moi aussi, j'ai une voix. Je peux descendre à la mer et l'appeler. Une phrase suffira, Teresa. Je connais Juan. Ce n'est pas un lâche. Tu ne pourras pas le retenir.
Et moi si, je vais avec toi.
Laisse mes enfants tranquilles, Pedro. Je leur ai dit que s'ils s'en vont, je me pendrai. Je sais que devant Dieu, c'est un péché qui entraîne la damnation éternelle. Mais je ne peux agir autrement. Quand Carlo est mort, comme il est mort, je suis allée trouver le padre. Sans quoi, je me serais déjà pendue à ce moment-là. Je savais fort bien que j'avais ma part de responsabilité. Encore que c'était lui le pire, avec ses emportements et sa tendance à la violence. Nous ne sommes pas si heureux et ce n'est pas si facile de supporter cette vie. Mais avec le fusil, ça ne va pas. Ça, je l'ai vu quand ils m'ont apporté Carlo et qu'ils me l'ont posé par terre. Je ne suis pas pour les généraux et c'est une honte de dire ça de moi. Mais si je me tiens tranquille et si je réprime mes emportements, peut-être qu'ils nous épargneront. C'est un calcul simple. C'est assez peu de choses ce que je demande. Je ne veux plus voir ce drapeau. Nous sommes assez malheureux.
Elle se dirige en silence vers le petit drapeau, le soulève et le déchire. Puis, aussitôt, elle se baisse, ramasse les morceaux et les met dans sa poche. Il vaudrait mieux que tu te pendes, Teresa. On frappe. Et entre Madame Pérez, une vieille femme en noir.
La vieille Madame Pérez.
Qu'est-ce que c'est que ces gens ?
De braves gens, ceux avec la radio. Leur fille est tombée au front la semaine dernière.
Je me suis dit que j'allais passer vous voir à cause des miens. Je voulais vous dire que je ne trouve pas ça juste quand ils vous font des difficultés à cause de vos idées.
La mère garde le silence. La vieille Madame Pérez qui s'est assise.
Vous avez peur pour vos enfants, Madame Carrard. Combien c'est difficile à notre époque d'élever des enfants. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte. J'en ai mis 7 au monde.
Elle s'adresse aussi en partie à l'ouvrier qu'on ne lui a pas présenté.
Maintenant, depuis qu'Inès est tombée, il n'en reste plus tellement. Il y en a 2 que je n'ai même pas pu mener au-delà de 5 ans. C'était les années de famine, de 98 et de 99. Andrea, je ne sais pas du tout où il est. Sa dernière lettre venait de Rio. C'est en Amérique du Sud. Mariana, elle est à Madrid. Elle aussi se plaint beaucoup. Elle n'a jamais été des plus fortes. Mais nous, les vieux, nous nous imaginons toujours que tout ce qui est venu après nous n'est pas tout à fait aussi solide que nous le sommes.
Vous avez encore Fernando ?
Oui.
Excusez-moi. Je n'ai pas voulu vous blesser.
Il ne faut pas vous excuser. Je sais que vous n'avez pas voulu me blesser.
Il est chez Franco.
Nous ne parlons plus de Fernando. Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre les miens si vous ne tenez pas compte que nous sommes tous affligés par la mort d'Inès.
Nous aimions tous beaucoup Inès.
À l'ouvrier.
Elle a appris à lire à Juan.
À moi aussi.
On dit de vous que vous êtes pour l'autre côté. Mais moi, je dis toujours le contraire. Nous autres, nous savons quelle est la différence entre pauvres et riches.
Je ne veux pas que mes enfants deviennent soldats. Ce ne sont pas des bêtes de boucherie.
Vous savez, Madame Carrard, je le dis toujours, pour les pauvres, il n'y a pas d'assurance sur la vie. C'est-à-dire qu'ils sont frappés de toute façon. Ceux qui sont frappés, eh bien, on les appelle les pauvres. Les pauvres, Madame Carrard, aucune précaution ne peut les sauver. Notre Inès, justement, a toujours été la plus réservée de nos enfants. Si vous saviez tout ce que mon mari a dû faire pour qu'elle ose se mettre à nager...
Je me dis qu'elle pourrait être encore en vie.
Mais comment ?
Qu'est-ce qui forçait votre fille, qui était institutrice, à prendre un fusil pour combattre les généraux ?
Qui sont même financés par le Saint-Père.
Elle disait qu'elle voulait rester institutrice.
Et ça, elle ne le pouvait pas à Malaga, dans son école, généraux ou pas généraux ?
Nous en avons parlé avec elle. Pour qu'elle puisse devenir institutrice, son père avait renoncé à fumer pendant 7 ans et ses frères et sœurs n'ont pas eu une goutte de lait pendant ces années. Et voilà qu'Inès a dit qu'elle ne pouvait pas enseigner, que 2 et 2 font 5 et que le général Franco était l'envoyé de Dieu.
Si Juan venait me dire qu'avec les généraux il ne peut plus aller pêcher, je lui ouvrirais les yeux. Vous vous dites peut-être que si nous nous sommes débarrassés des généraux, les marégueurs ne nous tourneront pas, hein ?
Je pense que ça leur sera peut-être un peu moins facile si nous avons les fusils.
Même alors, toujours les fusils. On va continuer à tirer.
Et qui parle de sang ? Si les requins t'attaquent, est-ce toi qui as recours à la violence ? Est-ce nous qui avons marché sur Madrid ? Ou est-ce le général Mola qui est venu chez nous en franchissant les montagnes ? 2 ans durant, on a eu un peu de lumière, une lumière bien faible, même pas une aube. Mais maintenant, on veut nous replonger dans la nuit et on ne s'en tient même pas à ça. Ce n'est pas que les institutrices n'auront pas le droit de dire aux enfants que 2 et 2 font 4, mais si jamais elles l'ont dit, elles seront exterminées. Tu ne l'as pas entendu dire ce soir que nous serons balayés de la surface de la Terre ?
Uniquement ceux qui ont pris les armes. Ne me faites pas la leçon comme ça. Je ne peux pas me disputer avec vous tous. Mes fils me regardent comme si j'étais de la police. Si la huche est vide, je lis sur leur visage que c'est de ma faute. Et si les aviateurs surgissent, ils détournent le regard comme si c'était moi qui les avais envoyés. Pourquoi le padre garde-t-il le silence alors qu'il devrait parler ? On me prend pour une folle si je crois que les généraux sont des hommes très mauvais ? mais pas un tremblement de terre avec qui on ne peut pas discuter. Pourquoi venez-vous chez moi, Madame Pérez, et me mettez-vous dans la tête un tel fatras? Tout ce que vous dites, vous croyez que je ne le sais pas moi-même? Votre fille est déjà morte, maintenant ce ne serait au tour des miens? C'est cela que vous voulez, n'est-ce pas? Vous faites irruption dans ma maison comme un huissier, mais j'ai déjà payé.
Madame Carrard, je n'ai pas voulu vous mettre en colère. Je ne suis pas de l'avis de mon mari qui dit qu'il vous faut vous forcer. Nous avions une très bonne opinion de votre mari, et je voulais vous demander de m'excuser, parce que les miens vous importunent.
Elle s'en va, en faisant un signe de la tête à l'ouvrier et au jeune homme.
Le pire, c'est qu'avec leur entêtement, ils arrivent à vous faire dire des tas de choses que l'on ne pense pas du tout. Je ne suis pourtant pas contre Inès.
Si tu es contre Inès, en l'aidant pas, tu étais contre elle. Tu dis aussi que tu n'es pas pour les généraux. Et c'est aussi faux, que tu le saches ou pas. En ne nous aidant pas contre eux, tu es pour eux. Tu ne peux pas rester neutre, Teresa.
Allons, mère, tu as beau faire... La voilà qui s'est assise sur la caisse au fusil pour nous empêcher de les prendre. Allons, donne, mère.
José, tu ferais mieux de te moucher.
Mère, je veux m'en aller avec l'oncle Pedro. Je ne vais pas attendre qu'on nous saigne ici comme des porcs. Tu ne peux pas m'interdire de combattre comme tu m'as interdit de fumer. Filippo, qui est loin de me valoir pour ce qui est de viser comme un caillou, est déjà là-bas. Et Andrea, qui a un an de moins que moi, est déjà tombée. Je ne me laisserai pas ridiculiser par tout le village.
Oui, je sais. Le petit Paolo a promis sa taupe morte à un chauffeur de camion s'il l'emmenait au front. C'est ridicule.
Ce n'était pas ridicule.
Dis à Ernesto Turillo qu'il peut prendre mon petit canot. Viens, oncle Pedro.
Toi, reste.
Non, je m'en vais. Tu peux dire que tu as besoin de Juan, mais tu n'as pas en plus besoin de moi.
Ce n'est pas parce qu'il doit aller pêcher pour moi que je retiens Juan. Et toi, je ne te laisse pas partir.
Elle court à lui et l'entoure de ses bras.
Tu pourras fumer si tu veux. Et si tu veux aller pêcher seul, je n'irai rien. Et même une fois avec la barque du père.
Lâche-moi.
Non, tu restes ici.
Non, je m'en vais. Vite, oncle, prends les fusils.
Aïe !
Elle lâche le jeune homme et s'écarte en boitant, en posant avec précaution le pied sur le sol.
Qu'est-ce que tu as ?
Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que j'ai ? Pars donc. Ta mère, en tout cas, tu l'as vaincue.
Je ne me suis pas du tout débattue. Il n'a pas pu t'arriver quelque chose.
Non, pars donc.
Veux-tu que... je te le remets en place?
Non, je veux que tu t'en ailles. Sors de ma maison. Excites-tu mes enfants pour qu'ils se jettent sur moi?
Je me suis jeté sur elle.
Blanc de colère, il va vers le fond.
Tu vas devenir un bandit. Pourquoi ne me prenez-vous pas en plus le pain qu'il reste dans le four? Vous pouvez même me ligoter à la chaise, vous êtes deux.
Tu as fini avec ces boniments, oui.
Juan est fou lui aussi. Mais il ne ferait pas usage de violence envers sa mère. Il vous fera payer ça quand il arrivera. Juan!
Une pensée lui venant, elle se lève soudain et court à la fenêtre. Elle en oublie de boiter et le jeune homme indigné désigne les pieds de sa mère.
Voilà que tout d'un coup, le pied va bien.
Je ne comprends pas. Je ne vois plus la lampe de Juan.
Comment aurait-elle disparu?
Elle a vraiment disparu.
Le jeune homme va à la fenêtre, regarde dehors.
Oui. Elle a disparu. La dernière fois, il était en mer, tout à fait à la hauteur du cap. Je descends.
Il s'éloigne rapidement. Et il doit être en train de revenir.
Alors je devrais voir la lampe.
Et qu'est-ce que ça serait d'autre?
Je sais ce que c'est. Elle est allée le retrouver en barque.
Qui? La fille? Sûrement pas.
Si, ils sont allés le chercher. C'était tout un plan. Ils l'ont combiné. Toute la soirée, ils les ont envoyés ici, l'un après l'autre, pour détourner mon attention. Ce sont des assassins, tous autant qu'ils sont.
Le padre, en tout cas, ce n'est pas eux qui l'ont envoyé ici.
Ils n'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils les aient tous entraînés.
Tu ne penses tout de même pas qu'il est parti au front?
Ce sont des assassins, mais il ne vaut pas mieux qu'eux. La nuit, il s'éclipse. Je ne veux plus le voir.
Je ne te comprends absolument plus, Teresa. Ne vois-tu donc pas que tu ne peux rien lui faire de pire que de l'empêcher maintenant de combattre? Il ne t'en saura pas gré.
Ce n'est pas pour moi que je lui ai dit qu'il ne doit pas combattre.
Ne pas combattre pour nous, Teresa, ce n'est pas ne pas combattre, mais c'est combattre pour les généraux.
S'il m'a fait ça, et s'il a rejoint la milice, qu'il soit maudit. Qu'il le frappe avec des bombes de leur avion. Qu'il l'écrase avec leur tank. Qu'il se rende compte que Dieu ne se laisse pas braver. Et qu'un pauvre ne peut pas se dresser contre les généraux. Je ne l'ai pas mis au monde pour que, derrière une mitrailleuse, il guette ses semblables. S'il y a de l'injustice dans le monde, Je ne lui ai pas appris à s'y associer. S'il revient, ce n'est pas parce qu'il dirait qu'il a battu les généraux que je lui ouvrirai davantage ma porte. Je lui dirai, et ça à travers la porte, que je ne veux personne dans ma maison qui se soit couvert de sang. Je le retrancherai de moi-même comme un pied malade. Je le ferai. On m'en a déjà ramené un. Lui aussi croyait qu'il aurait de la chance. Mais nous n'avons pas de chance. Peut-être que vous le comprendrez avant que les généraux en aient fini avec nous. Qui se sert de l'épée périra par l'épée.
Devant la porte, on entend des murmures. Puis la porte s'ouvre. Et entrent trois femmes, les mains croisées sur la poitrine, marmonnant l'Ave Maria. Elles se rangent contre le mur et, par la porte restée ouverte, deux pêcheurs apportent dans un voile trempé de sang sur le corps de Juan Carrar. Derrière eux, mortellement pâle, vient le jeune homme. Il tient à la main le béret de son frère. Les pêcheurs posent le mort sur le sol. L'un d'eux tient la lampe de Juan, tandis que la mère reste assise, figée, et que les femmes prient plus fort, les pêcheurs expliquent d'une voix assourdie à l'ouvrier ce qui s'est passé.
C'était un de leurs cotres de pêche, armé de mitrailleuses. Ils l'ont tout simplement descendu en passant.
Ce n'est pas possible. C'est une erreur. Il était pourtant allé pêcher.
Les pêcheurs gardent le silence. La mère s'affaisse, l'ouvrier la relève. Il n'a sûrement pas souffert.
Juan !
Pendant un moment, on n'entend que le murmure des femmes en prière et au loin, le roulement sourd de l'artillerie.
Pouvez-vous me le poser sur le coffre ?
L'ouvrier et les pêcheurs soulèvent le mort et le portent au fond sur le coffre. La voile reste sur le plancher. La prière des femmes se fait plus forte et plus distincte. La mère prend le jeune homme par la main et va avec lui vers le mort. L'ouvrier revenu sur le devant aux pêcheurs. Il était seul ? Pas d'autre en mer ?
Non, mais lui était sur le rivage.
Il désigne le deuxième pêcheur.
Ils ne lui ont même pas posé de questions. Ils ont seulement donné un coup de leur projecteur, comme ça, en passant. Et puis sa lampe est tombée dans la barque.
Mais ils ont bien dû voir qu'il ne faisait que pêcher.
Oui, ils ont dû le voir.
Et il ne leur a rien crié ?
Je l'aurais entendu.
La mère s'avance, tenant le béret de Juan que le jeune homme a ramené.
C'est la faute du béret.
Comment ça ?
Il est râpé. Un monsieur ne porte pas de choses comme ça.
Mais ils ne peuvent tout de même pas se mettre à tirer sur tous ceux qui portent un béret râpé.
Si. Ce ne sont pas des hommes. C'est une lèpre. Et il faut les brûler au fer comme une lèpre.
Aux femmes en prière poliment.
Je voudrais vous demander de vous en aller. J'ai encore beaucoup à faire ici. Et de toute façon, mon frère est près de moi.
Les gens s'en vont.
La barque, nous l'avons amarrée en bas.
Quand ils sont seuls, la mère ramasse la voile et la contemple.
Tout à l'heure, j'ai déchiré un drapeau. Ils m'en ont rapporté un autre.
Elle traîne vers le fond et en recouvre le mort. À cet instant, le lointain grondement de l'artillerie se modifie. Soudain, il se rapproche.
Qu'est-ce que c'est ?
La percée. Il faut que je parte tout de suite. La mère, s'avançant vers le four, à voix haute.
Sortez les fusils. José, prépare-toi. Le pain aussi est prêt.
Tandis que l'ouvrier sort les fusils de leur caisse, elle regarde où en est le pain. Elle le tire du four, l'enveloppe dans un linge et rejoint les deux hommes. Elle empoigne un des fusils.
Tu veux donc venir aussi ?
Oui, pour Juan.
Il se dirige vers la porte.
Links, links, links.
êtes toujours sur le Théâtre de la Gamelle, l'émission de théâtre radiophonique présentée par la compagnie Les Montures du Temps. On vous a donc lu aujourd'hui Les Fusils de la Mer Carrare. On vous a donc lu aujourd'hui Les Fusils de la Mer Carrare de Bertolt Brecht. Merci à tout le monde.
Merci.
Merci.
Et aujourd'hui, on a un invité, Combor, qui vient d'arriver dans le studio, avec deux invités même aujourd'hui.
Et Marion.
Marion, enchantée.
Enchantée.
Et vous allez donc nous faire une petite chronique, c'est ça?
En quelque sorte.
Qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Aujourd'hui, c'est la première chronique paysagère mise en abîme des thématiques de la gamelle. Donc, on s'est intéressé à la problématique de la mer. Pas Carrare. Mais du coup, un certain rapport non dialectique entre mère et fille. Je vous présente Anna.
Bonjour.
Bonjour.
Et sa mère.
Bonjour.
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 C'est parti. Dans un premier temps, voici une soirée chez Anna. Comment en sommes-nous venus à dire, en parlant d'une personne offensée, ça lui a donné un coup au cœur? Le cœur n'est qu'un muscle comme un autre, qui distribue l'hémoglobine en quantité régulière, afin que l'organisme assume ses fonctions suivant les circonstances. Anna était vraiment chiante ce soir-là. Elle voulait à tout prix nous faire entrer dans ses états d'âme. Elle nous assommait de photographies et de lettres reçues, de mails imprimés, de brouillons inachevés et de remarques désobligeantes touchant l'espèce humaine.
En fin de compte, je passe mon temps à avaler les couleuvres,
disait-elle, en faisant main basse sur les biscuits apéritifs qui s'émiettaient sur la nappe au rythme des syllabes. Les invités partageaient avec moi le désir irrépressible de s'esquiver dès la première ouverture, dès qu'un bon prétexte serait trouvé. Mais notre hôtesse ne manquait pas de talent pour nous faire rasseoir, alors qu'un convive dans une toux parfaitement simulée arrivait à se dresser de toute sa taille, le poing sur les lèvres. Bref, on s'ennuyait ferme à ce goûter dînatoire, tandis qu'Anna accumulait les remontrances concernant la branche zoologique sur laquelle, sans exception, nous nous trouvions perchés. Par quelle finasserie providentielle nous sortirions-nous de ce pétrin? Soudain, sur l'autoroute reliant la coupelle de Bretzel à sa langue, un arc bubonique fit un arrêt improbable. Elle resta fixée dessus avec des yeux de drone, et ne répondit pas à la sonnette d'entrée qui exécutait en boucle les quatre premières notes d'une berceuse de Brahms. Toum, 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 toum. Ça sonne, suggéra l'un d'entre nous. Il semble bien, dit un autre.
N'en faites rien,
nous apaisa Anna en rangeant proprement la patte amputée du bretzel dans sa coupelle d'origine parmi les siens.
C'est ouvert, ça va entrer. Ah, je déteste cette clochette.
Toum, 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 toum. C'est idiot,
serina une femme portant son âge, en déboulant au cœur de notre monde.
Personne ne m'a ouvert. J'aurais juré avoir entendu la musique, mais avec ces acouphènes, je n'en crois plus mes oreilles. C'est triste de vieillir.
Maman, je te présente mes amis. Je fais une soirée entre amis.
Ah, très très bien, tu te changes les idées.
Nous allions conclure, dit l'un d'entre nous, sur un ton trop guilleré.
On ne fait que cela, conclure, n'est-ce pas?
Reprit la vieille au chapeau fleuri de rose en me prenant à témoin. Trop aimable. Voyez-vous, je m'apprêtais à rejoindre sagement ma petite famille.
Charmant!
N'est-ce pas? Ce fut Anna qui, la première, repoussa sa chaise.
Non, maman, c'est une manie de venir chasser mes invités à chaque fois que je me détends un peu. Non, mais tu ne pourrais pas.
Oh, les pauvres! Je suis persuadée que je leur donne une raison. Regarde, comme tu leur as démoli le moral avec ces cacahuètes rachitiques et ces bretzels efflanqués. On dirait une assemblée de statues de sel. Vraiment, tu n'avais rien d'autre à leur proposer à se mettre sous la dent que ces cochonneries qui se coincent dans les gencives et collent au palais. Oh, tu aurais dû me le dire, ma petite. Je me serais fait un plaisir de...
Madame, ce fut parfait, rectifia l'un d'entre nous. Nous reviendrons, abonda un autre. Oui, oui, c'est à refaire, Anna.
et tout notre aréopage courut à l'entrée libérer les porte-manteaux du fardeau de nos vestes et par-dessus, si confortables à nos épaules. Mais Anna n'est pas en reste avec sa mère. Elle revossa un jour en lui rendant visite.
Je raffole de vos appartements parce qu'ils me rappellent le mien, dont j'ai horreur. Je trouve exquise votre décoration d'intérieur parce qu'elle prouve à quel point, pour ma part, j'ai mauvais goût. Cet homme, Émile, avec qui tu vis depuis que papa est mort, est tout à fait mon type. Hein? Au moins, on doit sentir défiler les heures. Tu t'habites de plus en plus négligé. Ah, tu ne devais pas être si mal foutu étant jeune, hein? Il paraît que vous vous êtes mis au panier bio. T'aurais quelques soucis? Ah tiens, j'ai vu ta vieille copine Paulette, tu sais, celle à qui on a rafistolé les boyaux avec du pneu. Elle dit que tu ne l'invites plus depuis que tu es montée d'un niveau au mot fléché. Ah, je l'ai bien rabrouée en lui faisant voir qu'il n'était jamais trop tard pour se cultiver. Hein. Tu n'éteins pas la télé? Tu as raison, ça meuble les blancs. C'est nouveau, ces coussins. Émile apprécie le patchwork, ça saute aux yeux. Ah, c'est un homme de style, hein. Éclectique. Comme je vois que tu as réussi à placer ce mot sur la grille du jour. C'était quoi la définition? Ah oui, personne aux idées larges, éclectique. Ah, j'aurais jamais trouvé, hein. Paulette, elle a pas l'air dans son assiette. Hein. Faut dire que ce pneu, ça ne fleurit pas la laine. Elle ne sent pas la rose hein, quand on approche. Ne va pas me raconter que si tu ne lui offres plus le thé... Oh non, non, je n'en crois rien. Tu n'étais pas comme ça. Si on commençait à énumérer tes sacrifices, rien que pour moi, étant enfant, ça en fait un wagon. Émile s'est absenté. Ça ne me regarde pas. Les hommes font ce qu'ils veulent. Courir après n'apporte que des ennuis. Mieux vaut ignorer ce qu'ils traficotent dans notre dos. Ah oui, je suis tout à fait de ton avis. D'ailleurs, il fait si beau, je me demandais si tu serais de sortie. Mais je vois que c'est comme avant. Tu ne nous emmenais pique-niquer que par temps de pluie. Ah, c'était étrange, cette passion pour les eaux bêtes des relais d'autoroute. Souvent, je m'y arrête pour cerner ce mystère. La nature a des inconvénients. Toujours ce satané rhume des foins qui a contribué à te pourrir la vie. Pauvre maman. Ah, tu n'as pas été gâtée, hein. Avec des parents pareils. Ne parlons pas de choses tristes. Alors comme ça, le chien est mort? Oh, pauvre chose. Bah, une compagnie en moins, hein. Comme on dit, ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Tes varices, ça va mieux? Oh, le pire, ce sont les hémorroïdes. On a du mal à s'en sortir avec ce genre de désagrément. Dites donc, t'en es où avec la vente de Stoudy? Je sais pas si tu vas en tirer grand-chose. Hein. Les gens aiment bien les murs qui tiennent en place, à rafraîchir. On sait à quoi s'en tenir quand on voit ça sur l'annonce. Oui, je l'ai lu sur le dépliant des offres immobilières. À rafraîchir, ça fait peur. En fait, moi, je peux parfaitement reprendre le tout. Je m'en accommoderai. J'ai si peu d'exigences. Et puis, j'ai des relations qui connaissent un rayon. C'est ma chance. Maman, hein? Bon, je te laisse y songer. Mais c'est ce qui me paraît le plus raisonnable vu ton état de santé qui se détériore. J'en ai touché un mot au médecin de famille. Saint homme, est discret avec. Avec ça. Ça te fait combien encore? Oh, pardon, je suis parfois indélicate dans ma franchise, mais écoute, quand j'ai vu Paulette, je t'ai souhaité de ne pas aller jusque-là. Une haleine pareille. Mais ça vous gâche l'existence à ne plus sortir du tout. Fenêtre grande ouverte, même en plein hiver. Hein. Il faudra que je te présente mon nouveau copain. Un chouette type. Tu vas le trouver irrésistible. Par contre, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Un vrai mec. tu verras, tu vas tout lui céder. C'est un tel ange. Alors à demain. C'est signé, maman.
Et voilà, une autre mère. Une autre fille.
Effectivement, les relations parents-enfants ne sont pas toujours faciles. On a pu le voir dans cette pièce, Les fusils de la mère Carrare, dans ta chronique. Et c'est vrai qu'il y a une autre pièce, il y a plusieurs autres pièces de Brecht qui parlent des rapports comme ça, parents-enfants. On peut se souvenir de Mère Courage et ses enfants, très belle pièce, qui se passe en fait pendant la guerre de 100 ans. Et qui, un peu la même thématique en fait que les fusils de la mère Carrare, Mère Courage refuse que ses enfants en fait meurent à la guerre, mais à la fois elle vit du commerce de la guerre, elle fait des bénéfices en fait sur la mort des gens, sur la mort des autres, et à la fois en fait elle essaye de préserver ses propres enfants, mais elle y parvient pas.
Là, ce qui est drôle à l'inverse de Brecht, c'est que dans la chronique, il y a quand même une vengeance de la fille. Enfin,
Il y a
le petit plus où elle revient. Bon, alors on va mettre les choses au clair. C'est ce qu'on voit rarement chez Brecht, en tout cas.
Il y a l'intérêt immobilier aussi.
Oui. Mmh.
Et aussi, pour revenir à Brecht, le cercle de Crécoucasien qui pose la question à qui appartient. Qui élève un enfant entre la personne qui l'élève et la personne génétiquement mère indigne.
Et ben merci à tout le monde en tout cas.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Voilà.
Bon rétablissement de ta voix.
Merveilleux. J'espère que la prochaine fois j'aurai assez de voix. La semaine prochaine, on va lire Marguerite Duras dans le cycle de lecture en fait sur les auteurs femmes. C'est une pièce qui s'appelle Yes peut-être. Et puis pour réécouter l'émission, vous pouvez aller sur le site internet de la compagnie, lesmonturesdutemps.fr. Merci à tout le monde, au revoir.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Je suis pas musicienne, je pourrais pas te faire un bon jingle.